Alors, en première partie d'émission, donc, place à une exposition collective qui réunit 11 artistes qui ont fait une immersion dans l'univers de la compositrice Katia Mardissi-Warun. Alors, après le temps d'Evangelista, après l'hommage à John Ray, Denis Goujon, Anna Sokolovic de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas pour son nom, oui, Gilles Tremblay. Eh bien, notre duo de commissaires, Juliana Jus et Elisabeth Dupont, ont exploré cette année le monde de Katia Mardissi-Warun, c'est le titre de l'exposition, pour notre plus grand plaisir. Je peux le vous dire, ça se déroule à la Maison de la culture Hansik jusqu'au 8 décembre. Et je suis absolument ravie d'avoir en studio, écoutez, la grande visite. Écoutez, je suis honorée par ce temps enneigé. Juliana Jus, une représentante du duo de commissaires qui est avec nous. Bienvenue, bonjour. Juliana, quel plaisir!
Bonjour, la neige c'est quelque chose, le froid aussi c'est quelque chose.
Mais on est prêt à surmonter tous les obstacles pour venir parler d'une exposition qui nous tient à cœur. Et je crois que c'est tout à fait le cas de Juliana et Gilles Morissette, que je suis absolument ravie de recevoir pour une première fois en studio. Vraiment, merci d'avoir fait ce déplacement pour inciter les gens à se déplacer eux-mêmes à la Maison de la culture antique. C'est une exposition inspirante. Alors, si vous nous parliez peut-être dans un premier temps, peut-être nous décrire un peu... Parce que c'est un événement qui allie musique et art visuel. Peut-être nous décrire peut-être un peu la sonorité, l'univers particulier de cette compositrice que je viens de nommer.
Oui.
Katia Mardissi-Warun. Et peut-être en même temps, on pourrait parler du vernissage, parce que moi, je suis encore imprégnée par la musique de cette compositrice qu'on a pu entendre d'une façon vraiment très spéciale au vernissage.
Oui. Oui, nous avons choisi, Elisabeth Dupont et moi, d'appeler cette exposition « Les mondes » de Katia Mardissi-Warun, parce que la particularité de cette compositrice à qui la Société de musique contemporaine du Québec rend hommage cette année, c'est qu'elle mélange dans ses compositions les cultures. Alors nous, les artistes, on a voulu inciter les artistes à faire la même chose. Alors, l'exposition comprend les œuvres de 11 artistes qui ont tous écouté la musique et ont créé des œuvres multidisciplinaires en s'inspirant de la musique, mais aussi de sa façon de créer ses compositions.
Alors, de quelle façon, justement? Parce qu'elle, elle mêle justement des sonorités, je pense, du Moyen-Orient, des sonorités...
Oui, orientale, occidentale, et maintenant
et vous des chants bien de gorge. Dans votre, oui, des chants de gorge en plus.
Oui.
Alors, mais vous décrivez bien dans votre descriptif de votre œuvre, c'est qu'elle est née d'une union entre un père...
Oui, c'est ça. Alors, elle a une mère libanaise et un père canadien. Alors, au début, sa musique, dans ses compositions, elle mêlait l'Orient et l'Occident. Mais après ça, elle est allée beaucoup plus loin. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au lieu de se nourrir de ses origines, elle est allée se nourrir de tout ce qui a pu l'influencer et de tout ce qui l'intéressait. Et je pense que les artistes ont suivi un peu cette même démarche. C'est ça qui rend l'exposition tellement intéressante. Alors, les artistes ont pas juste mélangé les cultures, ils ont aussi mélangé les techniques, ils ont créé des dialogues entre les arts visuels et la musique, ils ont juxtaposé des sonorités, des couleurs. Alors la mixité va au-delà de juste la culture, elle touche aussi aux techniques, aux processus.
Quel bon choix que cette compositrice qui mêle ainsi les sonorités, les différentes cultures, parce que c'est hautement inspirant pour les artistes.
Mais le choix a été fait par la Société de musique contemporaine du Québec. Nos expositions que nous montons aux 2 ans sont toujours en hommage... Cette série-là est toujours en hommage aux hommagés de la Société de musique contemporaine du Québec. Et à chaque fois, les artistes se penchent sur la musique, écoutent la musique, s'inspirent de la musique. Et ce qui est vraiment impressionnant dans cette série d'expositions dont vous avez un peu parlé, c'est qu'à chaque fois, les œuvres sont vraiment différentes. Et pourtant, il y a des artistes qui reviennent. Alors, on voit que les compositions et les thématiques des artistes changent selon la musique des compositeurs hommagés. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Il y a une démarche particulière à chaque fois. Peut-être avant qu'on poursuive sur les artistes, nous parler de ce vernissage vraiment qui était extrêmement spécial. Oui. Alors, c'est la première fois que je vois cette... je sais que ça peut se faire au théâtre, là, du jeu dans le public, mais là, c'était de la musique dans le public avec les œuvres entourées des... Nous étions entourés des œuvres en plein lieu d'exposition.
C'était un concert ambulatoire du NEM. Oh. Et c'était vraiment extrêmement impressionnant parce qu'ils ont commencé à jouer dans la salle d'exposition, ils ont circulé entre les œuvres et même les musiciens qui ne jouaient pas faisaient le tour de l'exposition et regardaient les œuvres. Il y avait toute une mise en scène, il y avait un côté théâtral et aussi un côté musical. Et finalement, pour finir la pièce, ils ont quitté dans un ordre sûrement planifié. Ils ont quitté la pièce pour une autre présentation dans le hall d'entrée.
Et cette compositrice explorait non seulement des instruments, mais aussi les voix humaines qui s'ajoutaient au son des instruments.
Oui, c'était vraiment un symbole de grande mixité. C'était vraiment du Katia Magdisi Warren. Et je pense que l'œuvre a été créée pour notre exposition.
Ce serait donc une œuvre inédite composée exprès.
Il me semble bien, c'est ce que j'ai compris. Oui. Parce que Katia Magdisi Warren est en résidence depuis 10 ans à la Maison de la Culture à Hontsik.
Depuis 10 ans, écoute, on en apprend. J'étais loin de me douter qu'il y avait une résidence en musique contemporaine depuis 10 ans.
Ouais, mais c'est pour ça que
la maison, la culture nous livre ses secrets.
Oui, c'est pour ça que c'est de présenter l'exposition à la Maison de la Culture à Hontsik, c'était vraiment la place. Et c'est grâce à Liette Gauthier que nous avons eu cette chance de présenter l'exposition.
Et alors, comment un regroupement d'artistes peut s'intégrer dans une résidence là, de plusieurs années comme ça? Alors, comment ça s'est passé, le processus avec cette compositrice? L'avez-vous rencontrée?
Elisabeth et moi, nous cherchions un lieu d'exposition. Oui. Et la dernière fois, pour José Evangelista, nous avions présenté l'exposition à la Maison de la Culture Côte des Neiges. Oui. Mais il faut
à plusieurs reprises, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, parce que pour John Rea, Musique Vue aussi, nous étions à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges. Et avant ça, nous étions à la Chapelle historique du Bon Pasteur pour honorer Anna Sokolovitch et Denis Goujon et Gilles Tremblay. Alors là, on cherchait un autre endroit et c'est un peu Aïda Aoun, de la Société de musique contemporaine du Québec, qui nous a contactés, et ensuite Liette Gauthier et... Et tout ça s'est mis ensemble parce que ça avait du sens. Et le NEM s'est rajouté à ça. Alors, c'était vraiment une soirée magnifique.
Vous avez pu à vous débattre chaque année. Là, c'est quelque chose là, qui est bien accueilli chaque année, cette collaboration avec des artistes visuels, cette collaboration avec la Société de musique contemporaine, oui.
Oui, la Société de musique contemporaine du Québec nous soutient toujours. Oui. Pour le lieu d'exposition, nous devons bouger un petit peu. Oui. Les artistes, nous les choisissons. Il y en a qui reviennent régulièrement, il y en a d'autres qui sont des nouveaux. Et les artistes, en général, sont volontaires. Quand nous les approchons, ils sont, en général, bien enthousiastes de participer à ce projet. Surtout qu'on s'y prend à l'avance, la première rencontre avec Katia Magdisi Warren était en février.
Février, donc, 2019.
Oui.
Un vernissage qui a lieu récemment. Oui. C'est toute une préparation de plusieurs mois, là.
Oui, parce qu'on a on fait toujours une première rencontre avec la compositrice.
Bon, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse.
Ou le compositeur. Oui. Et qui est une rencontre absolument extraordinaire. En fait, le compositeur ou la compositrice parle essentiellement de son processus de création, de ses sources d'inspiration. Mmh. Alors, en fait, les artistes ne sont pas là pour illustrer la musique. Les artistes veulent vraiment comprendre le processus de création en profondeur pour s'en inspirer, pour créer des œuvres visuelles. Alors, les œuvres ne sont pas des illustrations de certains morceaux de musique. Certains artistes vont privilégier une œuvre plutôt qu'une autre. D'autres s'inspirent plus de la production, d'une partie de la production. Moi, je me suis inspirée de Octoéco, du CD, de la musique sur le CD de Octoéco. Oui. Mais d'autres artistes vont choisir des morceaux spécifiques. Mais les œuvres ne sont pas des illustrations. Les artistes ont vraiment...
Se l'approprier. s'approprient d'abord cette musique, oui. font une immersion.
Oui, et essayent de comprendre comment elle a été créée, le processus de création, et comme faire une de transformer le langage de la musique dans un langage visuel et de créer des liens.
Alors, ces sources d'inspiration sont, ça donne du choix aux artistes parce que ces sources d'inspiration sont quand même assez, sont nombreuses.
Oui.
Ben, au-delà de la culture, je perçois beaucoup d'intérêt pour, d'inspiration pour la nature, hein.
C'est que vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup d'inspiration pour la nature?
Oui, je sais pas.
C'est peut-être mon expérience personnelle. Oui, c'est pour Katia McDissey Warren, c'est peut-être ce qu'elle a évoqué chez les gens. Moi, je sais de Aïda Aoun, je pense que c'est pas un secret, que Katia McDissey Warren aime beaucoup crier en forêt, dans la solitude. Alors peut-être que cet intérêt pour la nature réapparaît dans ses compositions, je sais pas du tout, mais c'est intéressant comme commentaire.
Mais c'est mon expérience hautement personnelle que j'ai osé exprimer en ondes.
Mais vous avez tout à fait raison, parce que je pense que les artistes ont tous fait des œuvres, ont tous créé des œuvres hautement personnelles, et la musique de Katia McDissey Warren, et je pense que c'est aussi profondément personnel.
Absolument, absolument. Alors écoutez, on va d'abord parler de votre œuvre, hein, parce qu'il faut, on va parler de votre œuvre qui est très spéciale. Par la suite, après la musique, on s'entretiendra bien sûr avec M. Gilles Morissette, qui a une œuvre absolument spectaculaire à la Maison de la culture antique, et on a beaucoup de questions à lui poser. Mais tout d'abord, avant qu'on passe en musique, on va peut-être parler avec Mme Juliana Jousse de son œuvre, hein, vraiment très originale.
Oui, mon œuvre est un tissage jacquard original. Oui. Et l'inspiration de mon œuvre, c'est une recherche de mes intérêts culturels. C'est une recherche de mon identité culturelle et comment celle-ci affecte mon travail. Alors, pour être vraiment très pratique, j'ai commencé par un test d'ADN personnel.
C'est quelque chose.
qui était toute une expérience parce que... dans les résultats sont sortis, bon, évidemment, des origines dont je ne doutais absolument pas. Mais après avoir fait cet exercice purement scientifique, je me suis rendu compte qu'en fait, comme artiste, moi, je m'inspire de mon vécu, de mon entourage, autant du pays que j'habite que des voyages que je fais et des gens que je rencontre. Et finalement, l'œuvre n'est plus à propos de l'ADN, mais plutôt de la mixité. Alors, l'œuvre se présente en fait comme un paquet de gouttelettes visuellement qui symbolisent les crachats qu'on en fait pratiquement qu'on crache dans un tube pour un test d'ADN, mais c'est rendu vraiment à un autre niveau et toutes ces taches et ces gouttelettes se mélangent, se confondent, et pour moi c'est ça l'identité de l'artiste. Et je pense que
vous avez des annotations
il y a un texte à côté de l'œuvre et il y a aussi un catalogue qui est là pour consultation, mais si les visiteurs sont intéressés, vous pouvez le demander à l'accueil. On peut vous le donner gratuitement.
Oui, d'accord. Alors, c'est toute une expérience. C'est de s'approprier cette musique de façon toute personnelle, absolument. Et c'est bien sûr tissu jacquard. C'est votre médium de prédilection.
Oui.
C'est votre
support de prédilection. Je fais du tissage jacquard et de l'estampe. Oui. Ce sont mes deux techniques.
Oui, très bien. Alors, on va passer tout de suite en musique. On va peut-être parler un peu du choix de la musique. On va voir si ça correspond un peu à ce que... Madame Juliana Jousse connaît un peu de cette... écoutez, ce qu'on a ici, c'est une musique extraite de concert séminique octo-écho. C'est ce qui vous a inspiré, vous, personnellement, Madame Juliana Jousse, avec les chanteuses Nina Segalowit, Hélène Martel et Lydia Etok-Katia McDissey Warren, bien sûr. Et je ne pourrais pas... Il y a Bertil Schulram, en tout cas. C'est une musique, donc, extraite d'un concert du disque qui vous a inspiré. Écoutons-en... Écoutons cette pièce.
Thank you.
Ouh, alors c'est vraiment une magnifique, magnifique musique. On comprend l'inspiration qui peut s'en dégager.
Oui, oui. C'est toujours d'une grande richesse et d'une très grande variété, toutes ces œuvres.
Alors, on est ravis de pouvoir accueillir Élisabeth Dupont, qui a pu se libérer, qui est avec nous pour cette deuxième partie d'entrevue. Bienvenue, Élisabeth Dupont.
Merci.
Co-commissaire, donc, avec Julienne Adjouz. On va essayer d'ajuster, par contre, le micro pour qu'on puisse bien pouvoir entendre vos propos. Avant qu'on était justement un petit peu avant la pause musicale dans la description d'une œuvre, celle de Julienne Adjouz, peut-être qu'on va revenir à une petite question qui a déjà été posée, à savoir votre approche en duo comme commissaire. Quelle était votre expérience, Élisabeth?
Vous avez dû en parler avec Juliana.
On a parlé plus du processus de création avec les artistes, mais peut-être pas de votre accompagnement comme commissaire.
Nous, on a fonctionné par coup de cœur.
Alors,
on a pris des artistes dont on aimait le travail, et il y en a un certain nombre qui nous suivent depuis, ça fait plusieurs expositions comme ça, plusieurs qu'on présente dans le cadre de la série Hommage, et c'est pour celle-là, on a continué avec certains des artistes, et on essaye toujours de renouveler un peu d'avoir, et puis on essaye d'aller toucher un peu des styles différents, complémentaires.
Oui, c'est ce que j'ai pu constater, oui.
Et puis aussi des générations différentes aussi. On essaye d'avoir un beau mélange.
Oui.
Et puis on a toujours des très belles surprises parce que les œuvres se répondent et se complètent. Et ça, alors au départ, on pouvait pas vraiment le prévoir parce qu'on demande aux artistes une œuvre en fonction d'une musique que souvent ils ne connaissaient pas déjà. Des fois oui, des fois non, mais enfin, en général, c'est pour eux une découverte.
Est-ce que ce sont toutes des œuvres inédites?
Oui.
Oh, quel honneur! C'est quelque chose,
hein? Oui, c'est quelque chose. Et oui. Puis, on a rarement, ça nous est arrivé d'avoir eu à intervenir pour diriger un petit peu dans un sens ou dans un autre, mais c'était exceptionnel.
Alors, vous avez donc établi tout un partenariat avec la Société de musique du Québec.
C'est ça.
La Société de musique contemporaine du Québec. Vous avez établi tout un partenariat d'année en année, hein?
Effectivement, et puis cette année, en plus, c'est eux qui produisent le catalogue.
Alors, ça n'a pas toujours été eux,
c'est très souvent, mais disons que c'est encore eux qui le produisent cette année. On a un très beau catalogue qui résume bien l'exposition. Il y a une reproduction de chaque artiste et puis il y a des commentaires sur l'œuvre qu'il a fait.
Oui, ça se consulte agréablement. Format CD, et ça se consulte agréablement. Ça nous fait en même temps découvrir d'œuvre en œuvre l'univers de la compositrice.
Effectivement.
Chaque artiste ayant trouvé un angle d'inspiration.
Exactement.
Si vous parlez justement, on va conclure bien sûr avec un bon moment avec M. Gilles Morissette qui est avec nous. Je sais que c'est M. Gilles Morissette qui est là, qui attend, qu'on souhaite questionner dans quelques instants, là. Bon, Élisabeth Dupont, tu me parlais de votre œuvre que j'ai trouvée très intéressante. Alors, vous avez opté pour une œuvre très familière, hein? C'est la familiarité qui vous a inspiré.
Les différents aspects, disons, d'une personne.
Oui.
Ça peut être autant les origines que les contacts avec d'autres personnes, les influences diverses qui arrivent de tous côtés, soit par des contacts avec dans les voyages ou des rencontres ou toutes sortes de rencontres. Alors, c'est un peu cet aspect-là que j'ai exploité.
Oui, c'est ça. Mais vous avez justement un assemblage qu'on peut apprécier sur place.
Je travaille souvent
avec des petits cadres.
Oui. Je travaille souvent avec des objets trouvés. On m'avait donné ces petits cadres et puis je les ai utilisés. J'ai fait beaucoup de photos et de gravures sur acétate. Et
c'est une bonne idée.
Ce que j'ai utilisé, les acétates transparentes dans les petits cadres. Et puis j'ai repris certaines œuvres anciennes qui avaient pour moi une signification particulière. Et puis, certaines photos qui avaient aussi un sens particulier, j'ai assemblé tout ça.
C'est toute une constellation qui donne un sens particulier, qui est un petit peu un certain quotidien, une familiarité.
Puis le côté hybride aussi.
Hybride.
C'est que toutes ces choses-là n'auraient pas de lien entre elles si je les ai, c'est les cadres en fait qui les unissent, l'uniformité des cadres qui les unissent. Comme chaque personne, disons, a une facette, a plein d'aspects particuliers, mais c'est la personne elle-même qui fait l'unité. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi avec la musique de Catherine.
Exactement, c'est ce que j'allais ajouter, parce qu'à travers la diversité, il y a une unité qui s'établit.
La diversité des cultures qu'elle va chercher.
Qu'elle va unifier dans sa musique.
C'est ça, exactement.
Oh, c'est très intéressant. Alors, chaque œuvre donne beaucoup matière à réflexion, nous incite à...
c'est ce qu'on voudrait, oui.
Bien, c'est fort réussi. On est, bien sûr, avec Monsieur Gilles Morissette, hein, Monsieur Gilles Morissette, qui est avec nous, qui vraiment nous présente...
Si je peux ajouter...
Oui, alors, allez-y.
Très rapidement.
Les questions sont bienvenues.
C'est que Gilles Morissette était sur le jury de la première exposition.
Ah oui.
Qui était en hommage à Gilles Tremblay. Et grâce à elle, on a fait le contact avec la Société de musique contemporaine. Et Gilles était sur le jury de cette exposition-là. Et depuis, il est, pour les autres expositions, il est là comme artiste invité.
Et oui, alors donc...
Oui, effectivement, j'ai eu le privilège d'être dans toutes les expositions. Et c'est vraiment un plaisir de faire ce travail-là.
Mon Dieu, alors... attends.
On a un petit problème technique.
On a un petit micro qui vient de se décrocher.
Bon, okay.
C'est bon. Voilà. Bon, on va essayer de se réajuster.
Oui. Alors, bon, comme ça va.
Bon, on va y aller avec le micro à la main. Bon, alors on aura toutes les aventures aujourd'hui.
Oui, oui. Tout à fait.
Oui.
C'est comme un outil qui perd son outil des
alors
fois.
Alors vous
pour
êtes.
Pour expirer d'une autre façon.
Oui. Alors vous êtes un artiste pilier de cet événement-là annuel.
Oui, je sais pas, je dirais pilier, mais bon.
Un fondateur en tout cas.
Ben,
un des fondateurs.
Oui, ben indirectement parce qu'on m'avait toujours invité et tout ça. Oui, effectivement. Et voilà.
Ce premier jury, cette participation dans
premier
jury.
Oui, dans un premier jury qui était une autre structure à ce moment-là. Et après, c'est Juliana et Elisabeth qui ont repris une autre formule pour faire continuer l'événement parce que c'était vraiment intéressant de continuer de faire des expositions, faire ce lien-là avec les arts visuels multidisciplinaires et puis le travail d'un musicien ou d'une musicienne.
Alors, oui. Alors, vous, M. Gilles Morissette, vous avez toute une formation, vous avez tout un parcours d'artiste.
Oui.
vous êtes un professeur au Collège d'Assen depuis 1984.
Oui.
C'est toujours le cas?
Non, c'est plus le cas parce que maintenant, je suis un artiste à temps plein, si
vous êtes artiste. donc, vous avez des longtemps, donc,
c'est ça, mais j'ai toujours eu... oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Enseigner, c'est un privilège aussi, je pense, dans la société. On peut exprimer nos points de vue, diriger des étudiants, faire...
Oh, on demande juste de vous rapprocher du micro.
OK. Là, ça va?
Peut-être qu'on pourrait aller avec l'autre micro qui est plus confortable.
OK, voilà.
Voilà, ça va être plus confortable. Merci.
Donc, effectivement, je disais que bon, c'était quand même... ça a été quand même très, très enrichissant à enseigner.
Ouais.
Et puis, à un moment donné, bon, on veut quand même poursuivre notre travail artistique et c'est ce que j'ai décidé de faire
après
un long moment.
Vous devez être absolument ravi de pouvoir vous consacrer à votre travail artistique à temps plein. Et vous avez quand même un baccalauréat en arts plastiques, l'Université d'Edmonton en Alberta, une maîtrise en arts plastiques à l'Université Concordia. Et un doctorat, je pense que c'est ce qui caractérise beaucoup votre pratique, un doctorat esthétique, sciences et technologies des arts, à l'Université Paris-Saint-Denis en France, un doctorat.
Oui.
Donc,
oui, ça fait déjà longtemps que j'ai tous ces études-là. Ça me paraît loin, mais effectivement, comme vous dites, tous ces diplômes-là, ça nous mène, ça forme notre pratique artistique. Chaque expérience était différente parce que moi, je suis originaire de l'Alberta, de parents québécois.
Oui.
J'ai toujours conservé cette possibilité-là de pouvoir venir au Québec. C'est ce que j'ai fait en venant à Concordia pour faire ma maîtrise et avoir d'autres expériences artistiques là où on maîtrise plus notre pratique. C'est plus individuel et on a déjà entamé une démarche artistique lorsqu'on était en maîtrise. Et au doctorat, j'ai fait ça en France parce qu'il y avait d'autres opportunités là. Ma conjointe était là aussi, qui est une artiste aussi déjà. Et puis, on a décidé qu'on pouvait faire des choses là-bas. Et j'ai poursuivi ce doctorat-là, qui est très enrichissant. C'est un doctorat mixte, c'est-à-dire que tu utilises ta pratique artistique comme fond d'un travail écrit, qui nous amène à approfondir nos pensées, notre philosophie un peu de ce qu'on veut faire, et puis de préciser plus précisément quelle orientation on veut prendre. Voilà.
Alors, écoutez, vous continuez de créer des œuvres à caractère scientifique, monsieur
scientifique, je dirais pas ça,
avec une certaine approche, approche scientifique, du moins. Ce qui peut se dégager de l'œuvre actuellement.
Oui, peut-être.
Exposée à la Maison de la Culture.
C'est que je oui. Ben, cette œuvre-là, en fait, peut-être que je peux partir de du fait que j'ai été de l'inspiration de l'œuvre, parce que, bon, moi, j'aime bien dans... Ben, la plupart du temps, dans ce cas-là, c'est vraiment une trame musicale qui... quand j'écoute tous les œuvres, en fait, tous ceux-là qu'on peut écouter, des compositeurs, il y a une œuvre, des fois deux, qui m'accroche et
oui.
qui me touche vraiment émotionnellement, musicalement, point de vue structure. Et aussi, souvent, le titre d'une œuvre devient important pour moi,
oui.
dans presque tous les cas. Et ensuite, le jeu de ce que le texte que souvent les artistes écrivent par rapport à ça, des fois c'est très conceptuel. Qu'est-ce qui arrive comme à John Rea, c'est beaucoup conceptualisé, c'est sa façon de penser. D'autres fois c'est plus émotionnel.
Oui.
Et avec Katia...
oui, quelle a été votre expérience?
Oui, c'est ça. Ouais. C'est son œuvre qui m'avait frappé. Ça s'appelle Back to Earth de 2009. Et puis, j'ai cette œuvre-là. Je trouvais qu'elle représentait beaucoup son jeu de trame orientale avec la trame occidentale
ouais.
par rapport aux instruments qui sont utilisés. C'est un peu ça. Et les rythmes, bien sûr, qui se dégagent de la musique orientale à la musique
ouais.
occidentale.
Oui.
Et c'est ce chevauchement-là de la trame musicale qui fait que ce que je trouvais intéressant, c'est quand on écoute une partie de la trame, on peut seulement, en fait, notre oreille peut diviser un peu les trames. Tu peux écouter la trame orientale
oui.
et tout à coup, tu dis « Ah, ben c'est vrai, il y a celle occidentale » et tu commences à écouter ça. Et après ça, tu dis « Bon là, elle a mis les deux ensemble, donc il faut... quand même voir que ça fait un tout. » Et c'est là qu'on se rend compte du chevauchement de ces sonorités-là,
oui.
qui enfin en crée un troisième, si on peut dire, soit un différent timbre de la jumelage de tous ces instruments-là,
oui.
Ou en harmonie, c'est à partir de ça que c'est ce que j'ai trouvé très séduisant de cette œuvre-là.
Oui.
Et je trouvais que ça je pouvais assez bien, j'ai tout de suite vu eu des images visuelles
d'une synergie de...
oui d'une synergie,
c'est extraordinaire.
Donc je suis parti avec l'idée
oui.
De deux ovoïdes,
oui.
deux formes qui est un peu ovales, si on peut
oui.
dire, qui se marieraient ensemble, qui se chevaucheraient. Et puis après, parce que le titre, je voudrais vous expliquer le titre aussi avant, parce que...
Oui, allez-y.
Parce que Magdisi Warren dit que son œuvre, c'est « Back to Earth ». Puis elle écrivait
oui.
que... Elle trouvait qu'on n'était pas, on était trop rendu loin dans l'espace et pas assez sur Terre.
Oui.
Et je me suis dit, bon, ça,
intéressant.
Ça veut dire qu'on n'est pas assez dans le moment.
Oui.
Et en fait, moi, je trouve que pour être plus dans le moment, il faut être sur Terre, mais en même temps aussi étendre notre imaginaire et nos possibilités vers l'univers, parce qu'on n'est plus dans une société où de plus en plus scientifiquement, grâce à la science, en
oui.
fait. Et l'exploit humain de vouloir savoir comment l'univers a été formé, toutes les récentes découvertes, il y en a beaucoup, beaucoup de notre vivant
ouais.
qui ont été faites et ça semble aller très vite.
Et c'est pour ça que moi, j'ai fait un jeu de mots un peu avec mon titre, qui est « Forward to Earth and Towards Infinity ». Et c'est là que ça m'amène à vous dire que ces deux ovoïdes-là, en fait, j'ai repris qui
sont dans un mouvement continuel.
Sont dans un mouvement continuel. C'est un, ça s'appelle un lemniscate qui est qui est le,
c'est
le
un concept
de l'infini.
Ah, oh, c'est intéressant.
Donc, c'est un peu entre des formations de spirales, en fait, qui deviennent le lemniscate, la forme de l'infini, qui est en fait qu'on voit souvent représenté comme un petit 8 qui est couché, mais en fait c'est une forme qui est en fait trois-dimensionnelle, c'est un 8 en spatialement comme une bande qui est en continu dans l'espace. C'est une figure en fait géométrique trois-dimensionnelle.
Évidemment.
Mais on l'a traduit.
Évidemment, on est captivé par cette œuvre. On est captivé par cette œuvre qui est d'un métal rouge, hein?
C'est... Oui, c'est ça. J'ai travaillé, c'est la première fois que je travaille avec cette matière-là, parce que normalement, je travaille souvent avec du papier assez mince, un peu dentelle, un peu transparent, qui est assez organique aussi. Et là, je voulais explorer d'autres matières, j'avais plus de temps pour le faire, et ça m'a toujours intrigué, ça, de la feuille métallique très très mince, un peu comme des matières quand on fait de la feuille de la feuille d'or ou de la feuille d'argent. Ça, c'est un petit peu plus épais, bien sûr. Et j'ai expérimenté, on avait assez de temps, ça m'a pris en fait presque un an faire cette œuvre-là.
C'est quelque
parce que
chose.
Je suis parti de zéro. Là. Disons que quand tu es artiste, ce qui était très agréable en tant qu'artiste, c'est explorer les matières, explorer comment faire des choix de comment on va utiliser la matière aussi, comment ça peut se présenter. Et toujours avec l'optique qu'on a une vision très claire. Enfin, pour moi, c'est toujours assez présent dans mon imaginaire et dans que je suis capable de visualiser la forme que je veux produire. Donc, la forme qu'il y a là-bas, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle un petit peu plus, c'est...
Le temps nous manque un peu, je souhaiterais vraiment tellement poursuivre sur le sujet absolument captivant. Toutefois, le temps en onde file, et mon Dieu, le temps file, malheureusement, avec grand regret. On doit abréger, mais écoutez, c'est une œuvre centrale dans l'exposition. Absolument ravie d'avoir pu échanger un peu de toute l'expertise de M. Gilles Marissette, qui est avec nous pour une première fois. Julianne Ajousse, Élisabeth Dupont, le mot de la fin, c'est jusqu'au 8 décembre, mais il y aura une autre expo qui va se poursuivre. M. Gilles Marissette, vous allez aussi, on va pouvoir continuer d'aller apprécier.
Oui,
votre
œuvre. Je vous invite
dans un autre lieu de diffusion.
D'aller voir l'œuvre.
Oui,
l'exposition et tout.
Oui.
Alors, merci pour votre invitation.
Oui.
Et alors, l'exposition sera présentée au Musée de l'Oratoire Saint-Joseph en janvier-février avec un concert de clôture le 22 mars en après-midi. Alors, suivez les nouvelles.
Et dans l'immédiat, par contre, à la Maison de la culture antique, Mme Élisabeth Dupont, ça se poursuit encore quelques temps?
Jusqu'au 8 décembre.
Jusqu'au 8 décembre. Encore quelques temps, donc, pour aller apprécier cette exposition d'œuvres inédites. Et j'étais absolument ravie de pouvoir m'entretenir avec M. Gilles Marissette et le duo de co-commissaires de cette exposition Katia McDissey-Warren, Les mondes de Katia McDissey-Warren, dont il s'agissait du duo de Élisabeth Dupont et Julianne Ajousse. Merci pour votre visite en studio. Et c'était un grand plaisir. Alors, allez-y, chers auditoires, allez voir cette exposition-là. C'est très inspirant.